Nous sommes le lundi 2 janvier et vous écoutez le 19e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludic Bazar, c'est le spécialiste des jeux discount, neufs et d'occasion, avec plus de 14 000 références sur www.ludicbazar.com. Salut les joueurs, salut les joueuses, et bonne année ! Bonne santé, plein de belles choses pour cette année qui débute. Beaucoup de jeux, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de soirées passées avec vos copains et vos copines. Et voilà.
Avec plein de lancers de dés.
Et la santé, favorable. Pour pouvoir jouer, beaucoup de temps.
Voilà. La santé, ça dépend. Un arrêt de travail, ça permet de passer plus de temps à jouer. Enfin, un petit pépin de santé.
Je ne dirai pas. Cette fois, je ne dirai pas. N'hésitez pas. Voilà, encore énormément de bonnes choses. Le meilleur qu'on puisse vous souhaiter pour cette année qui débute. En 2012, on va continuer à vous mettre à contribution. On a lancé encore un petit sondage sur notre site pour connaître un petit peu vos goûts, pour essayer de vous proposer une émission avec une meilleure qualité. Et le sondage est, quelle est votre rubrique préférée ? Vous avez plusieurs choix, c'est-à-dire que si vous n'écoutez qu'une seule rubrique, il faut coucher. Je n'écoute qu'une seule rubrique et la nommer. Et participer, ça va nous aider à mieux vous connaître.
Ou alors on va s'apercevoir que nos rubriques préférées ne sont pas les vôtres.
Oui, mais ça, ça va nous permettre, d'évoluer. Vous verrez que cette année, on va continuer à s'améliorer, ou au moins on va continuer à essayer de s'améliorer. Et il faudra continuer à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et puis quoi encore ?
Et mettre des commentaires sur iTunes.
Voilà. Alors, merci à ceux qui ont laissé, bien sûr, un petit mot pour nous sur iTunes. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @proxyjeux, sur Facebook, sur Google+, un petit peu partout. Donc, et puis surtout sur notre site www.proxy-jeux.fr. Vous pouvez laisser des commentaires et puis nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez pensé de l'émission et compléter en fait notre émission bi-hebdomadaire. Et au sommaire aujourd'hui, on va vous donner quelques brèves d'actu, des roadmaps, des jeux qui sont attendus sur Board Game Geek et chez nous aussi. Du jeu de rôle avec Dissident qui sort son numéro 4 et un jeu de rôle gratuit The Lost Room. Pas mal de choses chez Philosophia et 4 jeux. Mage Knight de Vladash Latil, Steam Torpedo qui sort l'extension Recherche et Développement, le raccord nu extension pour Chaos dans le Vieux Monde, Kingdom qui revient chez Edge. Et puis on aura un concours, de la gamification, des jeux auxquels on a joué et qu'on a aimé qui sont la première extension de Quarriors, Rise of the Demons et Où va-t-il ? Le deuxième opus chez Ravensburger pour les enfants. Et puis on va vous parler des événements de la quinzaine. Et puis des écrans, pas mal de choses en fin de compte, pas de gros blockbusters, mais plusieurs choses dont on a envie de vous parler.
Et puis petite précision pour ceux qui nous écoutent avec leur iPhone ou iPod, sachez que ce podcast est chapitré, ce qui vous permet d'accéder directement à une rubrique.
Ou en sauter d'autres.
Ouais, c'est ça, à sauter celles qui vous plaisent pas. Voilà. Mais je sais que vous en sauterez pas.
Et puis, on nous fait parfois un petit peu le reproche de la longueur de nos podcasts, bien qu'on essaye. On n'arrive pas, hein, parce qu'on rajoute des rubriques, donc forcément, c'est toujours plus long. On nous reproche que c'est un peu plus long, ça vous permet d'écouter une rubrique ou une autre, ou d'arrêter à la fin de la rubrique et puis de reprendre assez facilement. On va commencer par quelques actus. Puisque Proxy G, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité.
Et que c'est une rubrique que vous aimez bien.
Et on va commencer par quoi ?
Ah, j'ai envie de commencer par la mienne.
Ah bah, vas-y.
Un jeu peu connu, promis sans doute un grand avenir.
Seven Wonders ?
C'est Seven Wonders. Bien, bien vu.
J'ai trouvé ?
Ouais. Et il va y avoir donc une nouvelle extension, évidemment. Puisque vous vous rappelez, hein, l'éditeur a prévu d'en faire pas moins de 7. Seven Wonders Cities, qui serait la deuxième extension pour Seven Wonders, puisqu'il y a déjà eu Leaders qui est sorti en 2011.
Et plein de petites goodies, mais
et les petites goodies
on les compte pas.
Qu'on compte pas. Allez, on est comme ça, on les compte pas. Donc qu'est-ce qu'elle va amener cette extension ? Je pense que le moteur principal de cette nouvelle extension, ça va être le jeu en équipe.
Pas mal.
C'est pas mal, on pourra jouer jusqu'à 8. Et l'autre chose qu'elle va apporter, c'est des nouvelles cartes qui sont les cartes noires qui représentent les villes. Voilà, après donc les cartes, il y en aura 9 par âge, elles vont amener différents effets. Et l'extension amène aussi 2 nouvelles merveilles, un nouveau maître de guilde. et puis des cartes associées aux cartes noires.
Donc on sort un petit peu du cadre, on joue pas 7. Il n'y aura pas 7 cartes par...
Non, ouais. Non, bon. Bah, je sais pas. Okay.
Non, mais c'est bien.
Voilà, super. Du coup, la news vient déjà de prendre le double de durée. Et voilà, donc cette extension qui va arriver dans les prochains mois est censée nous apporter un jeu plus agressif et plus d'interaction évidemment entre les joueurs du fait qu'il y a des équipes.
Et puis chez Gus & Co, Gus qui nous avait déjà proposé deux extensions maison qui étaient Calamité et Fortune dont on... Alors non, la première extension s'appelle pas Calamité et la deuxième Fortune, c'est la première s'appelle Calamité et Fortune et la deuxième Commerce. A mis sur son site une nouvelle extension non officielle pour Seven Wonders qui s'appelle Territoire et qui introduit la possibilité de dominer des continents et de gagner des pièces et des points de victoire supplémentaires. Donc on vous mettra le lien sur notre site. Et Jamy, je pense que tu veux nous parler de la roadmap de Cocktail Games.
Oh, j'en meurs d'envie. Alors ils ont dévoilé plus d'une dizaine de jeux pour 2012. On en retient quelques-uns, notamment un qui va sortir sur la présidentielle, sur l'élection présidentielle, qui va sortir un mois à peu près avant le premier tour. Hein, donc, il surfe en fait sur la Russie de Casse-toi, pauvre con, en 2011.
Toujours signé Ludovic Maublanc et voilà, illustré par Martin Wittberg.
C'est ça, exactement. Martin Wittberg, un grand amateur de jeux, d'ailleurs, que j'ai découvert à travers son site.
Oui, son site ou...
Ouais, son site, notamment.
Ouais. Il est totalement juré à l'As d'Or, Martin Wittberg.
Ah, c'est pour ça. Mmh. Maintenant, il illustre en plus toutes les lignes de Philibert.
Et Martin Wittberg, c'est quelqu'un qui a une approche assez particulière du jeu de société, enfin assez intéressante par rapport à tout ce qu'on peut raconter n'importe quoi dans l'actualité.
Et ici ? Ah non.
Non, je pense plus à TF1 ou Europe 1, ou enfin un vrai média, quoi, tu vois. Et donc, pour revenir à l'actualité de Cocktail Games.
Voilà, donc ensuite, il y aura Meurtre sur le Nil. Alors, c'est un murder party dont on vous a déjà parlé. Il y a quelques épisodes, quand Guillaume Montiel avait annoncé qu'il allait faire ça.
Tout à fait.
Donc, voilà, ce sera donc le premier opus d'une collection qu'ils appellent Mystery Party.
Et alors, un nouveau format, non ? Un format slim ? Ou alors, c'est un format que je connais pas, moi.
Mais c'est quoi, format slim ?
Ça doit être entre la boîte... ça doit être Contrario ou Unanimo.
D'accord.
C'est pas le pocket, mais c'est un petit peu plus gros, et c'est pas la boîte de...
Et c'est pas comme l'interdit. Ou compatibilité. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sera dans le deuxième trimestre.
Et donc, pour rappel, Murder Party, ça se veut être des jeux faciles à emporter partout, faciles à faire. Toujours un petit peu de scepticisme devant moi, mais c'est un petit... C'est le...
Il faut réunir pas mal de joueurs, quand même.
Oui, tout à fait, mais a priori, ce que disait Guillaume, c'est qu'il n'y avait pas toute la préparation que pouvait avoir une Murder Party classique. Nous l'achèterons, et nous vous dirons ce que nous en pensons.
Voilà. On testera, je serai l'enquêteur, Olivier sera le meurtrier. J'essaierai de trouver.
Tout à fait. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi.
Bon, et encore plus croustillant, surtout pour Olivier, sur le troisième trimestre, il nous annonce un nouveau jeu coopératif dans la suite de L'Île Interdite. Donc, même illustrateur, même auteur, Matt Leacock. Et ça se passerait cette fois-ci dans le désert. Alors, je sais pas, le désert sans sable.
Le désert sans sable.
On sait pas.
Bon, j'attends de voir. Parce que c'est bien de réutiliser les filons, mais il ne faut pas trop tirer sur la corde, parce que sinon, à la fin, elle se casse. Et puis, puisqu'on parle des jeux qui sont attendus en 2012, la roadmap de certains éditeurs, je vous invite à vous rendre sur le site de Board Game Geek, où il y a une geek list qui sera les 20 jeux les plus attendus de 2012. Alors, sur Board Game Geek, ils font ça tous les ans. Donc je vous mettrai le lien vers la liste 2011. Et actuellement, on n'en est pas encore à la nomination, enfin au vote pour savoir quels sont les 20 jeux qui sont les plus attendus de 2012. On en est à la nomination des jeux et en fait, c'est jeux, la liste, la constitution de la liste en fait.
Ah, c'est terminé aujourd'hui la nomination.
Oui, on en est maintenant à ça et les votes commenceront le 3 janvier et finiront autour du 14 janvier. Donc si ça vous dit, vous pourrez même aller voter. Donc, dans les nominés, on a Marchand de Vénus, donc on vous a déjà parlé pas mal de fois, FFG qui est un petit
on
peu...
On peut cocher, lui, on préfère la version FFG ou la version...
Stronghold. Mais je sais pas. Après, les deux sont annoncés, donc à voir. De toute façon, ça va sortir. Non. Vraisemblablement, ça va sortir, donc tant mieux. Dans cette liste, il peut y avoir des vieux jeux, comme With War, qui est un très vieux jeu, qui va être un peu comme Marchand de Vénus, que les internautes souhaitent voir réédité. On a Star Wars The Card Game, qui est un jeu JCE coopératif sur le thème de Star Wars.
C'est bien. T'as fini CSDA, tu passes à Star Wars.
Non, alors je sais pas.
Un JCE en fait, par an.
Je ne suis pas sûr. Enfin, peut-être. Peut-être. Je suis moins attiré par Star Wars que par Seigneur Zano.
Oh.
Donc ça, c'est du nouveau. Alors, on n'est plus dans la réimpression de vieux jeux. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Les gens attendent ça. Ils attendent aussi des projets Kickstarter. On parlait de D-Day Dice qui sera en boutique normalement en 2012. Donc ça, tant mieux. Beaucoup de jeux historiques ou de wargames.
C'est un masse américain.
Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Des jeux Z-Man pas sortis en 2011, on vous en a parlé, la faute peut-être, ou la cause, à la fusion entre Z-Man et Philosophé, à l'achat de Z-Man.
Les caisses un peu vides de l'éditeur.
C'est possible. Tu veux parler de... Non, non, il faut
non, pas. Non, on parlera pas.
Des choses très alléchantes, on parlait de vieux jeux, Rex, c'est la réimpression de Dune.
Alors, quoi, Rex? Le jeu va changer de nom? Il n'y aura plus le Bénégué Sérit qui devine le gagnant tour 9?
Ça, c'était un détail.
Ah non, c'était bon, ça. Non, justement, c'est pour savoir si les clans vont rester ou si on garde juste le concept, mais on tout change, tu sais.
Bah, il faudra aller voir sur Bonne Game Geek. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, un P500. Alors, P500, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique lancée par GMT, qui est un éditeur essentiellement de wargame ou de jeux historiques, qui permet la précommande de jeux qui ne sont pas sûrs de sortir. Ils attendent la souscription de 500 internautes, et puis quand c'est fait, hop, ils lancent l'édition, et en général, ça permet de lancer la machine. Et
ils en tirent 2000, je crois, après. Enfin, ils en tirent plus, en tout cas, que 500. Ils
voilà.
Ça permet effectivement de...
Le P500, d'abord, ça permet d'avoir les jeux un peu moins chers que dans le commerce. Sauf que, bon, il y avait les frais de port, mais voilà. Ça permet également, une fois par an, de bénéficier des soldes de GMT et d'avoir tout à 50%. C'est tout à 50% ou une partie de leur stock à 50%?
Ils ont changé.
Voilà, il était possible d'avoir 20%, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Cette année, c'était moins intéressant qu'il y a 2 ans.
Par contre, si vous participez au P500, si vous aidez l'éditeur et que vous participez au P500, vous avez le droit à une réduction qui est beaucoup plus intéressante. Donc, moi, il y en a un qui me fait de l'œil. D'ailleurs, c'est celui qui est attendu. C'est 1989, Dawn of Freedom. C'est un séquel de Twilight Struggle, dont on vous parlera, mais pas dans cette rubrique-là. C'est un excellent jeu et le thème c'est plus la guerre froide, c'est la chute du mur, donc c'est, enfin la fin, c'est plus la guerre froide en tant que telle, mais la fin de la guerre froide. Donc ça c'est most anticipated aussi pour moi. Une extension pour Nightfall dont on vous a parlé, The Coldest War, une extension pour Quarmageddon, Gola dont on vous a également parlé dans un ancien numéro, Seven Wonders, The Cities. On vous parle quand même de beaucoup de choses.
Glory to Rome Black Box.
Oui.
C'est quoi la Black Box?
Alors,
c'est la garde prétorienne?
Non. C'est un Kickstarter. C'est un Kickstarter qui avait pour but uniquement de réillustrer Glory to Rome avec une patte complètement moderne, enfin qui est vraiment complètement différente de ce qu'on connaît, qu'on a connu soit de la petite boîte rouge, soit de la version Philosophia, et normalement avec une lecture beaucoup plus simplifiée. Bon, let's see. On aura aussi éventuellement Dominant Species The Board Game et puis Dominant Species The Card Game et puis on parle déjà des sorties de SN 2012 avec CO2, donc voilà, bah, tout ça, des vieux jeux, des réimpressions, des Kickstarter, des P500, des extensions, enfin, c'est un avant-goût de ce qu'on trouvera en 2012 et ça vaut le coup qu'on aille y jeter un œil.
Mais toi Olivier, dans tout ça, est-ce qu'il y en a toi, pour 2012, est-ce qu'il y a des jeux, pas forcément ceux-là d'ailleurs, parce que...
Marchand de Vénus, je l'attends, je veux voir ce que ça donne, parce que Star Wars, on pourra en parler. Pour moi, le JCE du Seigneur des Anneaux, très bien, on finit le cycle et je suis pas sûr que j'ai... Pardon.
Tu n'auras pas envie de faire le suivant nécessaire.
Non, parce que si j'ai une remarque à faire, si j'ai une critique à faire sur le JCE du Seigneur des Anneaux, c'est que vraiment, et c'est quelque chose qui est embêtant, si vraiment tu veux te lancer dedans et si tu veux pouvoir builder ton deck,
il faut tout
le cycle. Parce que tu vas te retrouver avec des cartes qui traitent des cavaliers du Rohan. T'as pas de cavalier, ça n'a aucun sens. T'as des cartes qui appellent des aigles, t'as pas d'aigle, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Donc je suis pas sûr, et peut-être que je vais repartir sur Star Wars plutôt que je sais pas. Alors, je vais certainement acheter la boîte de base pour voir comment c'est. Parce que la boîte de base du Seigneur des Anneaux se suffit elle-même, et puis après je verrai si je me lance dans un cycle ou pas. J'attends beaucoup donc 1989, Twilight Struggle, Quarriors de Quarmageddon. Voilà. Donc déjà, tu vois, c'est un beau programme. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure, il va y avoir plein, plein, plein d'autres.
Ah, bah oui.
Donc, Board Game Geek, les nominés, les 20 jeux les plus attendus de 2012, c'est sur leur site, et c'est très 2.0, donc n'hésitez pas.
Voilà. Ouais. Et si toi, auditeur, tu veux nous partager avec nous tes jeux que tu attends pour 2012,
ah oui, oui, oui.
Viens nous mettre un commentaire, ça nous intéresse, on pourra réagir et constituer ensemble les 20 jeux les plus attendus. De...
Ou les 5 ou les 10.
Oui, parce que 20 ça me paraît beaucoup. Enfin, moi je suis pas.
C'est difficile.
Je suis pas inspiré comme ça moi. Ouais. J'ai déjà du retard de 2011, alors parler de 2012.
Ah, cette semaine en fait vous aurez une double mission. Nous parler des deux jeux que vous avez aimés en 2011 et ceux que vous apprécierez en 2012.
Et puis Olivier, puisqu'on parlait de Dominant Species et puisqu'on parle de tout ce qui nous attend en 2012, eh bien il y a eu une très bonne nouvelle. Enfin, j'espère, pour la plupart, c'est l'arrivée de Dominant Species en français annoncé par Philosophia. Donc, Dominant Species, c'est du gros, hein, c'est quand même du jeu. Je suis étonné de voir ça chez Philosophia. C'est comme du jeu pour gros joueurs.
On peut pas dire que c'est parce que. Là, pour le coup, c'est pas à cause du rachat de
non.
Zenman.
C'est par contre leur partenariat avec GMT. Et oui, c'est du partenariat qu'ils ont fait avec GMT.
Et quel partenariat ?
Eh bien, le partenariat.
Ils sont en partenariat avec GMT ?
Oui. Il démarre avec ça. On en
ça,
a parlé, je crois.
C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'ils vont ils vont franciser Twilight Struggle ?
Peut-être.
Si ça n'a pas déjà été fait. Mais je suis
ouais,
en train de réfléchir.
Peut-être ton fameux 1989 que tu attends.
Ouais.
Philosophia, si vous faites des P500, Olivier vous prend le premier.
C'est possible.
Alors, en français, ce serait plus sympa, effectivement.
Ouais.
Si les règles sont écrites aussi un peu moins style Wargame, pourquoi pas.
Ouais, Twilight Struggle, c'est un card driven. Donc en fait, si on n'est pas assez à l'aise avec l'anglais, il faut passer son chemin, quoi. Clairement. On est toujours en train de regarder ses cartes et à se dire est-ce qu'elle va me servir ou pas. Et donc, bon. C'est donc Twilight Struggle en français par Philosophia, c'est une excellente nouvelle.
Voilà, ils ont déjà traduit leur société de 1960.
mais par contre, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Voilà, on va s'emballer un petit peu trop vite. Donc il est annoncé, donc Dominant Species en français sortirait au printemps 2012. Alors le printemps, ne vous emballez pas, c'est pas forcément le 20 et quelques mars, ça peut être aussi le 20 juin. Hein. il faut être patient. Ils annoncent 20 pages de règles, un plateau avec accompagné de plus de 500 pièces en bois. Bref, il y a de la, sans parler des cartes, il y aura de quoi faire.
Ouais, je pense que c'est le plus dur à franciser, c'est les cartes. Parce que les pièces en bois, je crois que ça va.
Tu crois ? Bah ça dépend. Hein. Peut-être les couleurs. On n'aime peut-être pas tout à fait les mêmes couleurs que les Américains.
Tout à fait.
Et en parlant de Philosophia, ils ont aussi publié quelques petites dates de jeu pour leur jeu sorti post-Essan. Ah, donc pour vendredi, ils proposent un plateau de jeu qui permet de guider le joueur, savoir où il doit placer ses cartes de défaut, etc. pendant sa partie. A priori, c'était une extension, enfin c'était un goodies qui était déjà disponible avec la version allemande, donc Philosophia propose en téléchargement sur son site. Par contre, ce sera à vous de découper, etc. d'imprimer et de découper hein, quand même. Il faut bien que vous travailliez un petit peu. Et puis, il propose également, pour Aura et Labora, il propose un glossaire. Parce qu'Aura et Labora, on vous en a parlé, ça ressemble un petit peu à Le Havre. Donc, plein de bâtiments avec des effets particuliers. Donc, il vous propose tout un glossaire pour vous guider.
Et puis, puisqu'on parle de Aura et Labora, Gus de Gus & Co. a mis en ligne un guide stratégique pour vous aider à commencer, en fait, à vous lancer dans les premières parties. Aura et Labora, vous en avez déjà parlé la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, c'est un Le Havre plus, c'est compliqué et ça fait du bien d'avoir une petite aide, d'avoir une petite d'être dirigé, d'être coaché un peu pour les premières parties. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, Gus & Co, le petit guide stratégique. Mondo gagne le prix de l'année en Norvège. Donc pour une fois, ce n'est pas Seven Wonders qui l'emporte, mais bien le jeu que nous aimons beaucoup. Et en parlant de Mondo, on peut annoncer également la sortie de l'auteur de Mondo, Michael Schacht.
Michael Schacht.
De trois jeux. Alors Zoloretto, le jeu de dés. Après Ra, le jeu de dés. Carcassonne, le jeu de dés. Ticket to Ride, le jeu de dés, bah vous pourrez jouer à Zoloretto, le jeu de dés. Expédition Africa, dont on n'a pas beaucoup de renseignements. Et puis Mondo Sapiens, justement un spin-off de Mondo. Donc Wait and See, on verra bien ce que ça donne, en espérant que le séquel sera aussi bon que le préquel.
Un petit peu de jeu de rôle avec l'arrivée tout juste, tout fraîche du Dissident, du magazine Dissident numéro 4. Donc Dissident, vous en a déjà parlé, c'est un fanzine...
Moult fois.
C'est un fanzine sur le jeu de rôle qui est disponible en téléchargement en PDF, mais que vous pouvez aussi retrouver en boutique. Donc le PDF est déjà disponible depuis le 30 décembre sur le site de Dissident. On vous mettra bien sûr le lien. Et vous pourrez le trouver normalement dans les boutiques aux alentours du 20 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce sommaire? Alors, on n'a pas encore pu le lire. On va y trouver un match Hawkmoon contre Westland. On va trouver également un rétro sur 1995. Année de...
Ah oui, mon année de naissance, c'est mon année de naissance, 95.
Ah ouais, bien sûr. 1800?
Non, 1900.
On va y trouver, dans la rubrique Afroid, ils vont parler des ombres d'Esteren. On va trouver également dans les rubriques de MJMJ une inspiration sur Captain America, des aides de jeu sur La Loi, c'est moi ou Born to be Wild. Quelques scénarios pour Wasteland, pour Shade.
Et Luchadores. Jeu de wrestling.
Ah, si.
Tu sais, c'est les gens qui sont cagoulés avec les ailes dans le dos.
Et qui s'en mettent plein joyeusement. Ouais, voilà. Et puis, tout un dossier sur l'argent du jeu de rôle. Est-ce que le jeu de rôle... est-il trop cher maintenant?
C'était mieux avant. Ah non, c'était moins cher avant.
Je sais pas. Ouais, c'était moins cher avant, ils disent.
Ah, ça c'est un débat global. Ouais, c'est jeu de plateau, jeu de rôle, bref. La vie.
Donc on l'a pas lu, donc on peut pas dire. Mais si vous trouvez le jeu de rôle trop cher, alors nous vous invitons à télécharger une campagne gratuite.
Quelle transition.
Merveilleuse la transition. Et donc vous pouvez télécharger un jeu de rôle, une mini-campagne basée sur la série télé The Lost Room, qui était sortie. C'est une série télé qui est sortie en 2006, qui est composée de seulement
6 épisodes,
mais qui se tient complètement. C'est pas une série qui a été abandonnée en cours de route.
En fait, le pitch, c'est qu'un inspecteur de police nommé Joe Miller se voit confier par un jeune homme qui est sur le point de mourir la clé d'une chambre d'un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Sunshine, qui est situé sur le bord de la route 66. Et Joe Miller, lorsqu'il rentre en possession de cette clé, va être pourchassé par plein de gens qui veulent cette clé à tout prix et qui vont essayer de lui retirer. Et lui, en parallèle, s'est lancé à la recherche de sa fille qui est perdue dans cette chambre d'hôtel, puisque on va découvrir qu'il y a une porte qui ouvre sur un univers parallèle. Donc, tout le jeu de rôle tourne autour de ça, de la poursuite de Joe Miller, de cet objet tant convoité qui est la clé de cette chambre. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, nada del aire, ella de lo lejos, una luz en tela. La idea de Mezcal, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana de sonar y me dijo ya mi mismo que topo del cielo, ella siente una vela y nuestra de camino, soy vos el corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California. Pour cette adaptation, ils ont carrément inventé un petit système de jeu simple pour permettre de jouer, enfin léger, pour pas que la technique prenne le pas sur le jeu. Que le rôle soit plus important que le jeu, c'est ça ?
Il faut que le rôle soit plus important que le jeu, ouais. Et donc la règle du jeu était déjà disponible en chargement depuis un moment, mais bon, bah, il fallait la campagne pour pouvoir se lancer. Et ça y est, c'est disponible depuis 2 semaines à peu près.
Alors, c'est incroyable. Le site, je vous invite vraiment à aller le voir. Et puis ce gars-là est incroyable puisqu'il a inventé un jeu qui tient sur une page. C'est la Trouille et Citrouille. Si vous voulez jouer ça pour Halloween, alors c'est pas du tout le moment, mais c'est un petit jeu de rôle à la con. C'est un petit jeu de rôle drôle où vous avez un système très simple où en fait vous mettez votre costume, vous partez, puis vous allez chercher des bonbons. C'est extraordinaire. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller fouiller un petit peu parce qu'il doit y avoir un petit peu plus que la campagne de The Lost Room. Mais c'est intéressant que cette campagne-là nous amène sur ce site-là. Kingdoms revient chez Edge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kingdoms, c'est la réédition d'un jeu de 1994 du docteur Rainer Knizia qui s'appelle Auf Eller und Pfennig. Auf Eller und Pfennig, c'est vraiment daté, c'est pas très joli et c'est quelque chose qui est quand même très old school. L'idée, c'est qu'on va avoir un quadrillage et chacun à son tour, on va poser ses pions qui sont soit positifs, soit négatifs. Et on va essayer d'avoir une rangée ou une ligne qui va nous faire gagner le plus de points. Donc il y a aussi des tuiles qui permettent de bloquer la rangée. On peut se chicaner, on peut se chercher pour poser ses propres pions sur des lignes qui ont déjà été commencées, des choses comme ça. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 9 ans, à peu près 45 minutes. Je dirais que c'est une trentaine d'euros, mais je ne peux pas vous l'assurer, puisque c'est toujours en développement chez Edge, et ça sortira courant de cette année.
Alors, on n'est pas la bonne rubrique, mais c'est pas grave. Il est déjà disponible sur iPad, en fait, et iPhone, en version universelle à 3,99€.
Mais est-ce que c'est la version avec les petites, les petits châteaux en plastique?
Il s'appelle Kingdoms. C'est par l'éditeur, tu sais, au cadre violet, là, qui ont fait Modern Art et des choses comme ça. Donc,
d'accord.
Ouais, c'est des petits châteaux. C'est pas très beau, hein.
Ça vaut combien?
3,99€.
Donc, si vous voulez.
Universel.
Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est que Kingdoms, enfin de Auf Eller und Pfennig, allez voir sur votre iPad ou piquez celui de votre voisin.
Bon, la première extension pour Steam Torpedo est enfin arrivée dans vos boutiques.
Alors, quel est le nom de la première extension de Steam Torpedo?
Je
ne
peux pas la révéler, elle sert pour le concours. Le concours est terminé. Elle s'appelle R&D, comme...
Recherche et développement.
Oui, sans doute. Seek and Destroy, ce sera peut-être plus tard. Alors, le... Évidemment.
Rare et dromadaire, mais on trouve rarement des dromadaires dans les sous-marins.
Voilà. Donc, l'extension, elle propose 10 nouveaux compartiments pour customiser un peu plus vos sous-marins. Donc, on y trouve 3 standards, 3 motorisés, 2 blindés et 2 expérimentaux. Le tout pour environ une dizaine d'euros. Je n'ai pas encore acheté la mienne, mais.
Ça ne saurait tarder.
Ça ne saurait tarder.
Oui, puisque ça doit être disponible à l'heure où vous nous entendez. Ça doit être
disponible. Ouais, c'est déjà dispo, ouais.
Le raccord nu, la première extension pour le jeu Chaos dans le Vieux Monde, édité chez FFG puis Edge, est disponible en boutique et pour un prix d'environ 25 euros. Alors Chaos dans le Vieux Monde, c'est un jeu qui a un petit peu passé sous les radars de pas mal de gens, je pense, qui est assez méconnu et à tort.
Pour ma part, il a dû passer sous le radar parce que c'est vendu sous la licence Warhammer et que j'ai jamais joué à quoi que ce soit dans l'univers Warhammer et du coup, j'ai pas du tout prêté attention à ce jeu-là. Et de la même manière, Warhammer Invasion, j'ai jamais prêté attention non plus. C'est un JCE, c'est peut-être très bien, mais je sais pas. C'est l'univers Warhammer, voilà, comme je connais pas du tout. Je me suis jamais lancé dedans.
C'est paru en 2009, c'est un excellent jeu qui se joue à 3 ou à 4. À 5, si vous avez cette extension, on l'aura connu. Qui dure à peu près, 90 minutes à 2 heures, qui est pas très très long. Vous incarnez un des dieux. De la mythologie de Warhammer, ça peut être Khorne, le dieu de la guerre, Tchench, le maître du changement, ou Slaanesh, le prince des plaisirs, Nurgle, le seigneur des pestilences, la pestilence. Je suis pas très très calé dans le fluff de Warhammer, faut un peu m'excuser.
Moi je connais absolument pas.
La boîte est remplie de petites figurines, puisque c'est un jeu de baston et de prise de territoire. Alors c'est un jeu à la fois tout dépend en fait du dieu que vous avez choisi. Ils ont chacun leur façon d'avancer et de faire leur place dans le vieux monde. Ils vont dévaster le vieux monde et ils vont gagner des points de victoire. Ils vont gagner aussi des points de menace et le jeu va avancer comme ça. Donc il y a une fin qui va arriver assez vite. Donc c'est pour ça que c'est pas un jeu qui est très long. De mon souvenir, ça fait malheureusement un petit moment que je n'y ai pas joué, mais ça dépassait pas les 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, on connaissait pas trop la règle. C'est plein de petites figurines avec des petits monstres, des gros monstres, plein de petites tuiles parce qu'on va se battre aussi avec les paysans ou avec les héros qui vont se battre pour éviter que leur pays soit dévasté. C'est avant tout un jeu de majorité. Puisque, en fait, quand une zone est dévastée, on va regarder qui a la majorité, quel est le dieu qui a la majorité dans cette zone, et c'est lui qui va remporter le plus de points. C'est un jeu de négociation, de baston, et puis c'est très intéressant. Et le fait d'ajouter un cinquième joueur, c'est à mon avis pas le plus intéressant. C'est plutôt d'amener de la diversité. Tous les dieux sont vraiment très différents les uns des autres et ont des stratégies à mettre en place qui sont complètement différentes. C'est vraiment un jeu qui est très réussi. Je ne saurais vous conseiller de rentrer dans Chaos dans le Vieux Monde, éventuellement par le biais du Roi Cornu, si vous avez envie de jouer à beaucoup. Mais 3 ou 4, c'est très bien. Et donc, il faut y aller. Donc, le Roi Cornu est sorti, 25 euros. Chaos dans le Vieux Monde pour 3 à 5 joueurs, à partir de 13 ans, et bien 13 ans, et c'est à peu près 55 euros.
Dans le genre, on n'est pas dans le monde Warhammer, mais on reste un petit peu dans les univers, on va dire, de jeux de rôle médiéval fantastique, avec Mage Knight de Vladak Vatil, qui était le deuxième jeu en fait de Vladak Vatil à Isan, qui était publié chez Wizkid par contre. Il se trouve en fait que Wizkid a annoncé que ça y est, c'était sold out chez eux, Mage Knight, donc il aura le droit, par contre, vu le succès, à une deuxième édition. Alors, le fait qu'il soit sold out chez Wizkid, ça veut dire qu'on doit encore le trouver dans quelques boutiques. Mais comme c'est de l'import en France, il vous faudra errer, à mon avis, dans plusieurs boutiques avant de vous en procurer un si vous voulez.
Ah, c'est marrant ce que tu dis, Jérémy. Tu parles d'import. Mais oui, nous en parlons tout à l'heure.
J'ai fini ma news. Alors, Mage Knight, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas
Qu'est-ce
joué.
que c'est, Mage
Qu'est-ce
Knight?
donc Mage Knight? Alors,
Alors, Maryse, qu'est-ce que c'est, Mage
ce n'est
Knight?
pas mon type de jeu, premièrement. Mais c'est pas grave, comme vous en parlez. Mais par contre, j'y ai pas joué. Alors pourquoi c'est pas mon type de jeu? Parce que c'est du jeu super long, 2-3 heures minimum, à mon avis, on peut monter à plus que ça, avec des héros qui vont explorer un monde. C'est du dungeon crawl, du world crawl, on va dire. Donc les joueurs ont un héros qu'ils vont devoir mener à travers un monde. Ils vont faire des rencontres, ils vont tuer des monstres. Récupérer des objets, etc., monter en niveau, et à la fin du scénario, ils gagneront des bonus, des achievements, et puis on comparera les points de victoire, et celui qui a marqué le plus de points gagne la partie.
Ça joue en coop, mais pas
Voilà,
que, ou en
à savoir
compétitif.
voilà, que le jeu propose plusieurs scénarios, certains où on se met sévèrement sur la gueule, et puis d'autres où par contre on peut jouer en coopératif. Voilà.
Moi, ça, à la lecture de la règle, enfin pas de la règle, mais
Le
la
walkthrough.
présentation,
Ouais.
ça m'a vraiment donné envie, en fait.
Ouais, mais toi t'as acheté Dorn à Essen, alors faut peut-être
Oui,
que tu joues à celui-là.
c'est ça.
Mais effectivement, bon, alors je sais, il y a plein de gens qui aiment ce genre de jeu, donc pourquoi pas. Alors c'est quand même vraiment signé Kvatil dans le sens où il y a un livret de règles,
Tu veux dire, la règle est imbitable.
mais ouais, c'est-à-dire que j'ai même pas osé ouvrir le PDF de la règle, mais déjà le PDF il y a un walkthrough pour ta première partie déjà qui fait 20 pages en trois colonnes, écrit petit en anglais. Mais ça va, il raconte pas trop sa vie comme Dungeon Pets, mais
Quoi, tu veux dire que c'est 20 pages de règles? C'est
c'est 20
peut-être
pages,
encore pire, en fait.
c'est ça, c'est 20 pages de règles, c'est le walkthrough.
D'accord.
Donc j'ose même pas imaginer la règle, ce qu'il y a dedans. C'est super complet, mais c'est pas pour moi.
Alors, j'ai survolé, hein. Je suis pas rentré non plus dans les détails. Ça m'a paru très frais, en fait, comme approche du dungeon crawl. D'abord parce que c'est pas du dungeon crawl.
Non, c'est du
C'est
world crawl.
ouais, c'est du world crawl. Et puis, bah, t'as des cartes, t'as plein de choses. Ça a l'air. J'ai l'impression que c'est plus varié que les dungeon crawl classiques où t'es enfermé dans certains scénarios. Le fait que tu puisses jouer en compétitif ou en coopératif, bah, c'est un plus aussi. Le fait que ce soit un Vlad Ashlatil, c'est un plus aussi. Même si c'est quand même c'est pas mal ce qu'il fait.
Ouais. Alors
Bon, il a fait.
moi, si j'ai 3-4 heures, on est 4. Hein. Je sors un splotter. Hein. Je sors Indonesia, Rosenboats,
Ouais.
au choix. Mais pas
Rosenbaum, c'est pas
ça.
4 heures.
Non, c'est pas 4 heures, c'est 6 heures. Bon, mais je sors Indonesia en fait. C'est vraiment mon jeu. Hein. Voilà.
Donc, bah, à réserver à un public averti, peut-être.
Oui, sûrement, oui. Et ceux qui arrivent à le trouver aussi. Non, mais il y aura une deuxième édition.
Oui, c'est ça.
On vous dira quand la deuxième édition sera disponible.
Et a priori, bah, éventuellement, on pourra avoir une deuxième édition qui sera francisée, éventuellement.
Je sais pas, c'est WizKids.
Le numéro que vous avez demandé n'est plus disponible
Non, mais
actuellement.
WizKids, il faut pas trop traduire leur jeu en français,
Bah
quoi.
ouais, donc
Mmh.
Warriors,
Voilà.
c'est mort.
Non.
Ok.
Donc, Mage Knight de Vladak Vatil chez WizKids, qui ressortira bientôt en deuxième édition pour 1 à 4 joueurs, compté de 2 à 3 heures à partir de 14 ans, et c'est vendu à peu près 70 euros si vous le trouvez en boutique française.
Allez, parce qu'on vous aime bien, on va vous faire gagner un jeu.
Et au hasard, cette année...
Oh bah au hasard, non.
Ah
non,
merde,
non, parce qu'on aurait pu tomber, non, on aurait pu tomber sur un jeu qu'on aimait pas. Donc là, on vous fait gagner que des jeux qu'on aime.
Ouais, surtout Olivier.
Mais non, j'aime bien ce jeu. Enfin, il est pas pour moi. C'est comme quand tu dis que Chaos dans le monde, c'est pas pour toi. C'est pareil.
Bon, le suspense, stop. Hein. On vous fait gagner un Rallyman 2012.
Ouais.
Voilà. Ouais, c'est pour fêter la nouvelle année. On est en 2012. On gagne un Rallyman 2012.
J'aimerais bien moi gagner un Rallyman 2012.
C'est vrai. Mais t'as pas le droit de jouer, toi.
Bah oui.
C'est comme ça. Eh oui.
Bon. Alors comment est-ce qu'on fait pour gagner?
Je sais pas.
Alors, on s'est dit quand même que on pouvait améliorer le système par rapport à l'ancien concours.
Surtout pour nous, pour dépouiller en fait.
C'est ça. Que c'était un petit peu lourd de vous demander votre adresse
postale.
Voilà, ça c'était pour que vous receviez le jeu pour Noël.
On se dit que ce serait plus sympa que vous receviez le jeu pour Noël. Bon, finalement, le gagnant vient de nous répondre ce matin qu'il rentrait de vacances et tout ça. Oui, il est quand même content de le retrouver son retour.
Ouais.
Donc là, on vous demandera pas de remplir votre adresse. On vous contactera par mail si vous avez gagné.
Peut-être un petit code postal, juste pour savoir d'où ils viennent.
On vous la mettez en facultatif. Ouais, ça, hein. Et puis comme ça, voilà. Si vous l'avez mise et que vous avez gagné, on vous l'envoie le lendemain. Et sinon, vous faut attendre des échanges de mails.
Vous avez donc jusqu'au 29, au dimanche 29 janvier à minuit, pour vous rendre sur notre site et compléter le formulaire, parce qu'on a fait les choses bien cette année. On vous a préparé un petit formulaire, vous aurez une réponse automatique pour vous dire que votre réponse a été bien prise en compte. Et puis je vais demander à Jérémy de nous faire un petit champ libre pour que vous puissiez nous faire un petit commentaire, parce que j'ai adoré les commentaires que vous nous avez laissés. Alors Jérémy, ces questions, je t'écoute.
Allez,
je t'écoute.
On y va,
avec
une série de 5 questions.
Nous t'écoutons avec attention.
Bien. Alors, Rallyman 2012 n'est pas la première édition du jeu.
Ah bon?
Eh oui, il fallait écouter Proxy Jeux. C'est en fait, 1, la deuxième édition, 2, la troisième édition, 3, la quatrième édition, ou 4, la cinquième édition. Comment s'appellent les voitures dans le jeu Rallyman? 1, MRC, 2, WRC, 3, CRC, et 4, FRC.
La troisième question.
Troisième question, ouais. Avec les boîtes de Rallyman 2012 et l'extension Rallyman Dirt, combien de types de pneus sont disponibles? Alors, réponse 1, 1. Réponse 2, 2. Réponse 3, 3. Réponse 4, 4.
Moi-même, j'ai un peu de mal, mais il va falloir, c'est un peu plus compliqué que...
Il faut le gagner, ce Rallyman.
Ouais.
Question 4. Comment la pluie est-elle gérée dans Rallyman? Réponse 1. Les voitures doivent parcourir une case de moins. Réponse 2. Les risques d'accident sont plus élevés. Réponse 3, la pluie n'est pas proposée dans les règles de météo. Réponse 4, en cas de sortie de route, les dégâts sont aggravés. Enfin, cinquième question, et là, il faut bien que vous ayez écouté attentivement notre podcast du jour. Quel téléphone Olivier a-t-il testé?
Est-ce que j'ai essayé un Samsung Galaxy S, un Nokia Lumia 800, un iPhone 4S ou un HTC Titan? Donc là, au moment où vous écouterez ce bout de podcast, vous ne savez pas encore, mais allez jusqu'au bout et vous allez le découvrir. C'est un petit peu, on a voulu un petit peu favoriser les gens qui nous écoutaient. Au dépend des gens qui répondent simplement aux questions sans vraiment nous écouter, savoir ce qu'on raconte. Donc voilà, toi qui écoutes ce podcast, un petit coup de pouce. Et puis c'est la nouvelle année, c'est le moment de vous proposer des choses nouvelles et on a décidé d'inviter quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on vous en parle dans tous les podcasts.
On a déjà cité au moins deux voix dans les brèves.
Et donc c'est assez naturellement que on accueille avec plaisir et on le remercie beaucoup. Gus de Gus & Co dans ce podcast. On va vous le faire écouter une petite intervention, la gamification. Et puis, ou la gamification, je ne sais pas comment on prononce, et puis on en parlera tout de suite après.
Bonjour, c'est Gus de gusenco.net. Merci à Olivier et Jérémy de me laisser ce petit encart sur Proxy Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de gamification. Alors, la gamification, c'est quoi? On en entend un peu parler à gauche à droite ces temps. C'est vrai que c'est un terme très à la mode. En fait, la gamification, c'est l'application de mécaniques de jeu dans des domaines qui ne sont pas liés au jeu. Donc, par exemple, le marketing ou l'éducation. Bah, tiens, on va parler du marketing. Typiquement, est-ce que Olivier, Jérémy ou les auditeurs, vous avez sur vous une carte de fidélité quelconque? Par exemple, une carte de fidélité pour des compagnies aériennes ou une carte de fidélité de votre boulangerie? Ben voilà, moi c'est mon cas, j'ai une carte de fidélité dans ma boulangerie. Chaque fois que je m'achète un pain, je reçois un petit tampon sur ma carte et puis après le 10e pain, voilà, j'en reçois un gratuit. Donc en fait, la gamification, c'est une sorte de behaviorisme. Donc on incite le consommateur à dépenser son argent en lui donnant en fait bonne conscience et typiquement en lui créant une sorte de fidélité. Donc à chaque fois, l'acheteur va aller dans cette boulangerie, va utiliser cette compagnie aérienne pour gagner des points et donc continuer à recevoir des bonus. En fait, la gamification, c'est vraiment ça, c'est l'utilisation de plein de mécaniques de jeu, ben, voilà, typiquement l'histoire des bonus, les niveaux aussi, la viralité, donc plein de mécaniques de jeu qui sont ensuite appliquées, voilà, comme je l'ai dit, dans d'autres domaines. En fait, la gamification peut être divisée en deux catégories. Il y a la gamification simple, qu'on appellerait une gamification extrinsèque. Là, je sens que je suis déjà en train de perdre des auditeurs. Et puis, il y a la gamification intrinsèque. En fait, la différence, c'est que la gamification extrinsèque, c'est qu'on donne des bonus, on donne des prix, des récompenses, des motivations extérieures à l'activité. Donc, l'activité n'est pas forcément fun. Par contre, ce qui la rend fun, c'est tout ce qu'on peut gagner grâce à elle. Ça, c'est la gamification extrinsèque, c'est la gamification simple, presque un peu trop simple. Et ensuite, il y a la gamification intrinsèque qui, en fait, va créer une sorte d'incitation, de motivation ludique, vraiment, mais à l'intérieur même de l'activité. Il y aura des bonus, des niveaux, des systèmes mécaniques ludiques, mais en fait, ce qui rend vraiment l'intérêt de la gamification intrinsèque ou endogène, c'est qu'en fait, l'activité même sera vraiment fun à être pratiquée. Voilà, j'ai donné un petit aperçu de la gamification. Je vous conseille d'aller sur mon site. Il y aura le lien sur ProxyJeux. J'ai fait un petit article de présentation de toutes les mécaniques. Et puis également, j'ai recensé toutes les conférences TED sur la gamification. Il y en a quelques-unes de très, très intéressantes, très riches. Et je pense que la gamification va être vraiment un trend en 2012. Ça, c'est clair. De plus en plus de sociétés s'y mettent. L'éducation également. Parce qu'on se rend compte que, en fait, aujourd'hui, en 2011, 2012, finalement, les adultes qui ont entre 30 et 40 ans, ont tous été baignés dans le jeu vidéo, donc fonctionnent exactement avec ces mécaniques-là. Et puis forcément, les jeunes d'aujourd'hui, bah, pour eux, les jeux vidéo, c'est tout à fait inné. Voilà, merci beaucoup Olivier et Jérémy, et puis à la prochaine.
Tout à fait, à la prochaine Gus. Merci pour cette intervention, et puis au plaisir de t'entendre à nouveau dans notre podcast. Alors la gamification, moi j'en ai eu un exemple assez flagrant, puisque 3615, je raconte ma vie, j'ai testé le Nokia 800 Lumia Microsoft.
Tu as adoré.
Ah, j'ai adoré. Non, j'ai beaucoup aimé.
Les deux premières heures.
Alors donc, Microsoft fait tester à des jeunes gens, et oui, je suis encore jeune, 95 je vous le dis, hein. Son nouveau Nokia Lumia, ça permet de tester l'OS Microsoft Mobile. Comment ça s'appelle d'abord ?
Windows Phone 7.
Windows Phone, voilà, tu vois, je suis vachement jeune.
7.
7. Et d'ailleurs, c'est un OS que j'aime beaucoup, mais qui ne répond pas à mon usage personnel. C'est un petit peu comme, comme pour Android, ça marche pas.
Ça manque de fruits croqués.
Ça manque surtout de jeux de société, il n'y a rien. Les applications, il n'y a rien. Le podcast, il n'y a rien. Et puis quand tu le branches sur un Mac, il n'y a rien du tout. Donc,
c'est bizarre.
Ça ne rentre pas du tout dans mon écosystème. Et le plus intéressant, c'est que l'idée était que Microsoft va prêter pendant 6 mois, par période de 3 semaines, des téléphones à des gens. Et ces gens vont, c'est là qu'on rejoint la petite intervention de Gus, vont se battre pour gagner un Nokia Lumia 800. Alors c'est très simple, on va dire que si tu envoies un mail à quelqu'un pour lui parler de l'appareil, tu vas gagner je ne sais plus combien, 5 ou 10 points. Si tu lui fais répondre à un questionnaire, là tu vas gagner 40 points. Si tu te prends en photo avec cette personne-là, tu vas gagner encore 20 points, etc. etc. Donc il y a un concours à celui qui gagnera le plus de points. On va dire quel classement tu es, combien de points il te manque pour dépasser la personne qui est juste devant toi. Et là, c'est vraiment la gamification, c'est ça. Tu avances, tu gagnes des points. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. C'est le flood et le spam. Donc, je n'ai pas du tout adhéré à ça.
Et là, tu n'es pas jeune.
Et voilà. Et c'est là que je me rends compte que je ne suis vraiment pas jeune. Donc, la gamification, on la voit aussi. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on parlait de First Park. Et qu'en fin de compte, on a le système d'achievement,
Ah bah
qui pour
toujours.
moi fait partie aussi de cette gamification. Donc,
Ouais, mais c'est de la gamification dans le jeu. C'est du jeu dans le jeu.
les gold machin,
Les
là, les
achievements, les
rewards.
machins comme ça, ouais.
Mais enfin, pourquoi tu dis c'est le jeu dans le jeu? T'as
Bah, dans
des.
un jeu vidéo, gagner l'achievement Intel ou machin,
Eh ben.
tu restes dans le jeu. Ça, c'est normal, t'es déjà dans un esprit du jeu. C'est normal que tu te prêtes au jeu pour aller
D'accord.
décrocher une prime
Okay.
de plus.
Donc c'est pas comme si ton patron te faisait.
Ah bah alors là,
Envoyer des emails de délation à
Non,
ta.
alors moi par contre, je suis pas la cible de ce genre de truc, donc que ce soit sous n'importe quelle forme, niveau marketing, je suis pas très. J'aime pas trop, donc bon.
Donc, bon ou pas bon, de toute façon, la gamification fait partie malheureusement de notre vie. Ah tiens, malheureusement. Donc, je pense que c'est pour moi quelque chose de pas pareil.
Et voilà, bah oui, tu viens de le dire. De toute façon, mais par contre, alors le truc c'est que gamification, c'est pas nouveau, hein. Ils s'en parlent là, mais c'est pas un phénomène récent, mais. A priori, ça devrait encore prendre de l'ampleur dans les années qui viennent, puisque maintenant les constructeurs automobiles commencent à s'y mettre, c'est notamment Ford prépare pour sa future fusion le même genre de choses, sous forme de jeux vidéo, etc., où tu vas gagner des points hein, pour gagner, décrocher après, découvrir la voiture et décrocher la victoire. Je ne sais pas s'il y aura une voiture à la clé. Ça vient partout, on en voit partout dans tous les trucs de marketing, ils en parlent. Alors pourquoi pas maintenant, ça marche. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, ils en atteindront aussi une limite, parce que si les gens, il y a de la gamification partout, au boulot, à la crèche
On va
avec le
s'en lasser.
gamin, machin, ils vont en avoir ras-le-bol, et au bout d'un moment, ils vont en avoir marre d'être qu'en permanence, on leur demande de faire 12 000 actions pour avoir un truc, quoi. J'imagine que si jamais il faut que tu réussisses à la Marelle pour avoir ta baguette de pain, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Et on reviendra peut-être à un système un peu plus classique, où finalement, tu payes tout le temps ta baguette, mais au moins, t'es content. Tu l'as, ta baguette.
Tu ne travailles pas pour ton boulanger pour avoir ta baguette.
Non,
Parce que là, c'est un peu le cas quand même. C'est un très bon coup de pub pour Nokia, puisque j'en parle.
même là, ouais.
Même là.
Et voilà,
Et que
ils ont gagné.
j'ai vraiment aucune chance de gagner de
Mais
téléphone.
tu l'as rendu de toute façon,
Oui?
non? Il faut pour la petite
Ah bah
histoire,
oui, je
hein,
vais
quand
pas
même,
voler.
Olivier a tenu. Il devait te l'avoir pendant 3 semaines. T'as tenu quoi? Moins de 10 jours. Hein. Je te l'ai rendu au bout de 10 jours ton
Ouais, ça va,
iPhone,
c'est
mais
ça.
t'as. Ouais. Mais il a craqué bien avant. Hein.
Voilà, comme je l'ai dit, hein, ça fait pas partie de mon écosystème, donc ça marchait pas. J'étais tout nu. Donc voilà, merci encore une fois à Gus. J'espère que il aura la gentillesse de nous faire encore
Il va bondir quand
quelques
il
interventions.
va entendre nos réactions ensuite. Et puis on va revenir à un sujet un peu plus terre à terre hein, que la gamification. On va parler bah, de quelques jeux qu'on a joués et qu'on a envie de parler. Donc c'était les vacances. En fait, moi personnellement, j'ai pas sorti tant de nouveautés que ça. J'ai surtout sorti des jeux qu'on connaissait déjà avec les enfants. Mais à Noël, ils ont quand même eu au pied du sapin le dernier Ravensburger. Où va-t-il? Donc, on vous a déjà parlé de Qui l'a vu, qui est un Qnidia, un jeu de enquête déduction pour des enfants à partir de 6 ans en coopérative, qui est très très bien, qui a en plus qui marche avec un boîtier électronique. Et pour une fois, ça marche bien.
Pourquoi? En plus, c'est un plus, un boîtier électronique.
Ouais, bah non, les tentatives précédentes n'avaient jamais été très concluantes.
C'était
Il y a eu le Roi Arthur, par
le roi
exemple, qui est aussi un
Arthur,
Qnidia
ouais.
chez Ravens. Moi j'ai pas testé mais je sais qu'il avait des échos plutôt moyens, c'était en fait le jeu a priori était vite rébarbatif.
D'accord.
Alors que là non, qu'il a vu pas du tout. Et donc on va vous parler de Où va-t-il qui est sorti ben, en français tout juste pour Noël qui est de Roberto Fraga en plus donc auteur français aussi.
Éminemment sympathique.
Et oui, et toujours loufoque. Alors pour une fois le jeu Où va-t-il donc il n'y a pas trop de loufoquerie de Roberto, pas besoin de courir autour de la table, pas d'œufs à lancer partout en travers de la pièce.
Mince.
Et non. Mais par contre, il faut savoir que Roberto, c'est quand même quelqu'un aussi qui aime beaucoup travailler avec les gadgets électroniques. Chaque fois, il trouve des petits trucs qu'il va triturer dans tous les sens pour trouver des idées sympas de jeu. Et donc, du coup, Où va-t-il? C'est aussi un jeu qui exploite un boîtier électronique. Il faut savoir que quand il a présenté son jeu, il a même du coup piqué la vedette à Knizia, puisque après qu'il a vu Knizia, je pense avait d'autres projets avec Ravensburger de jeu sur cette licence, et que Ravensburger, en voyant le jeu de Fraga, a choisi ce jeu-là pour être le deuxième de la série, ce qui a mis Knizia plutôt en colère. Mais bon, c'est pas grave, il a pas besoin de ça, Knizia.
La team Knizia.
Ouais. Et il y avait un autre joueur Ravensburger électronique cette année, Eisen. J'ai pas prêté attention, déjà, parce que c'est en allemand, quand même. Mais j'ai vu des gens qui jouaient avec un autre jeu électronique qui avait des casques sur les oreilles pour écouter les boîtiers. Donc, sans doute qu'il arrivera en France l'année prochaine. On vous en parlera à ce moment-là. On va rentrer dans le vif du sujet quand même. Donc, où va-t-il? C'est un jeu, encore une fois, où c'est les enfants qui sont les héros du jeu. Cette fois-ci, c'était que c'est sur un pays où tout allait bien. Le dragon veillait sur le pays, mais un voleur a piqué le trésor du dragon.
Un voleur!
Oh là là!
Non, il parle pas comme ça, le dragon.
Non, le dragon, il parle pas.
Un voleur!
Et donc, il faut retrouver le voleur. Alors, le dragon, l'histoire, c'est qu'il est, il vole au-dessus du pays. Et il voit où va le voleur, mais il ne peut pas parler. Donc, son seul moyen de s'exprimer, c'est de faire des sons qui indiquent où se trouve le voleur. Donc, sur le plateau, on va retrouver plein de cases, évidemment, avec des illustrations. On va y retrouver notamment des moutons, un fleuve, la mer, forêt, loup, etc. Et en fait, à chaque case est associé un son. Donc, par exemple, je vais faire écouter. Donc, ça, c'est le début de la partie.
Approche-le un petit peu de ton micro.
Ouais, attends. Voilà, par exemple, le son de la mer.
Et donc, associé à ce son, on a une case avec des mouettes.
Voilà. Et donc, on sait que quand on entend ce son, par exemple, là, c'est le son de la rivière, on sait que le voleur, du coup, est sur une case de rivière.
J'essaierai de trouver, en fait, si je peux, le plateau.
Ah, le scan du plateau.
Ouais. Et vous verrez, en fait, c'est un petit peu comme un démineur. C'est-à-dire, quand on entend ce son-là, on a plusieurs cases qui correspondent à ce son. Et il faut déduire, en fait, des différents sons où est allé le voleur.
Voilà, parce qu'ensuite, donc, au fur et à mesure du jeu, qui va avancer, on va entendre plusieurs sons. Donc ensuite, on devine comme ça, le voleur peut se déplacer que d'une case à chaque fois. Donc il ne saute pas d'un bout à l'autre du plateau. Et donc, du coup, on peut assez facilement le suivre. Le reste du jeu, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'à chacun son tour, les joueurs lancent le dé. Alors, c'est fait par le boîtier, parce qu'en fait, les valeurs, c'est de 1 à 4. Et quand on tire le dragon, on peut aller où on veut sur le plateau. Et donc, les joueurs lancent le dé et déplacent leur pion sur le plateau pour se rapprocher, pour être au plus près du voleur. Il y a aussi des cas, une case sorcière sur le jeu qui permet au voleur de s'envoler, d'aller vers une des autres cases sorcières. Il y a 3 cases sorcières en tout sur le plateau. Donc, ce qui permet à un moment dans la partie de ramener un petit peu d'indécision sur l'endroit où il se trouve. Parce qu'il faut savoir qu'on retrouve assez rapidement où se trouve le voleur. Et le but étant qu'à la fin de la partie, qui est déterminée de manière aléatoire par le boîtier, après entre 10 et 24 tours de jeu, le joueur qui est le plus près du voleur marque un point. On refait ensuite une manche, ainsi de suite. Le premier qui a gagné 5 points, normalement, gagne la partie. Bon, nous, on joue en 3 manches gagnantes pour raccourcir un petit peu, sinon ça peut être un petit peu long quand même. À 4 joueurs, je vous laisse calculer, on peut très bien faire jusqu'à 17 parties. Ça dure 5 minutes, à peu près, mais ça peut être long. Le jeu offre d'autres modes. En fait, il y a un mode découverte, où tous les joueurs bougent un seul même pion. Donc ça, c'est très bien pour initier les petits.
Non, le premier mode, c'est juste écouter les sons.
Mais après, il y a un mode où il y a un seul pion sur le
plateau.
Qui est
coopératif.
Et du coup, voilà. Ouais. Et en fait, il y a un son seulement à chaque fois qu'on lance le dé. Après, il y a le vrai mode de jeu, où là, donc, les sons se succèdent, quel que soit le temps que mettent les joueurs à lancer les dés. Et puis, il y a un dernier mode encore plus compliqué pour les enfants, là, où on met tous les pions sur le plateau. Et puis chacun, en fait, a un pion secrètement, une couleur secrète. Et donc, on peut déplacer n'importe quel pion, mais le but, c'est qu'à la fin, évidemment, de la manche, ce soit son pion, le pion à sa couleur, qui soit le plus près. Bon, c'est toujours le système de devinettes là-dessus qui dure jamais bien longtemps, surtout avec les enfants. Voilà, donc, le jeu, une règle très très simple, qui marche bien, qu'on explique aux enfants. La bonne idée, c'est qu'il y a un mode d'initiation qui permet rapidement de faire jouer les plus jeunes, parce que le jeu est donné à partir de 6 ans, et vraiment des enfants à partir de 6 ans, et même
ouais,
un petit
marche.
Peu moins. Peut y jouer quand ils sont entraînés au jeu. Le truc, c'est qu'il faut effectivement bien, au début, il faut bien jouer avec eux, avec le mode où on a un seul bonhomme pour leur faire comprendre que les sons se succèdent. Ensuite, quand on joue chacun avec son pion, au début, ils vont pas forcément bien localiser où est le voleur, sauf que, comme tous les autres joueurs autour de la table vont là où est le voleur, et l'enfant va avoir tendance à suivre le groupe. C'est déjà un mouton à son âge.
Ouais, alors ça, c'est un jeu à faire des moutons, tu veux dire?
Il y a des jolies nuits à faire comme ça. Moi, je sais pas quelles sont celles.
Très bien. Moi, j'ai qu'un seul reproche à faire à ce jeu, c'est que en mode coopératif, lorsqu'on lance le dé, on est obligé de faire strictement le nombre de pas indiqués par le dé. Ça va de 1 à 4. Lorsqu'on fait 4, on peut revenir sur la case qu'on a quittée.
Quand on fait 2 aussi.
Quand on fait deux aussi. Enfin, après, c'est compliqué de toujours tomber sur la case sur laquelle est le voleur. Mmh. et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, il nous est arrivé un tas de fois de savoir exactement où était le voleur.
Ouais, il était à une case ou deux cases. Sur la boîte derrière, c'est marqué, enfin, le facteur chance a quand même 4 sur 5. Effectivement, c'est un problème, ce nombre de cases à parcourir. Mais nous, on a adapté la règle. Hein. Quand tu déplaces. Tu lances le dé, et si tu tires de 1 à 4, tu déplaces de 1 à 4 cases ton pion. Et puis, il y a juste quand t'as le dragon, tu vas où tu veux sur la carte.
Vous réussissez tout le temps, quoi.
Bah non, enfin, c'est une façon de... Parce que c'est nul de voir... Tu fais 2 ou 3 tours, t'as beau savoir où le voleur, si tu fais que des 1, t'es content, ouais. tu peux pas avancer. Enfin, c'est un... Après, bon, ça fait partie du jeu aussi. Parce qu'il y a autre chose, quand on joue à 4 joueurs, quand tu joues ton tour... Tu avances ton pion là où est le voleur, ou tu peux anticiper peut-être d'une case, mais après, le temps que les autres joueurs jouent, si c'est la fin de partie, bah, t'as coincé, de toute façon, t'es aussi trop loin du voleur. Donc, il y a ce facteur chance, effectivement, qui est un petit peu pénalisant. D'un autre côté, ça permet que ce soit pas toujours les adultes qui marquent tous les points.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà.
C'est pas mal.
Bon, il y a ce bémol-là, puis moi, ce que je reproche aussi, mais je l'ai dit, c'est aussi ce qui permet de relancer tout le temps le jeu, c'est qu'il y a systématiquement la sorcière. Donc je dirais que dans la première partie du jeu, on s'en fout, on peut se promener où on veut sur le plateau, aller cueillir des pâquerettes, c'est parfait. Et quand enfin la sorcière s'active, et là, il va falloir commencer à vraiment se rapprocher du voleur. Le plateau est pas si grand que ça, et à coup de 4 cases, on se rapproche vite de lui. Voilà, mais quand même, c'est un... Pour moi, il a peut-être pas la grandeur d'un qu'il a vu, mais... Les enfants veulent le sortir très souvent, parce qu'il a l'avantage qu'on peut jouer qu'une manche ou deux si on veut, on n'est pas obligé d'aller à 5 points, et que ça se joue en 5 minutes. Les enfants l'aiment bien, bon, il y a peut-être l'effet découverte aussi maintenant, mais quand même, c'est un jeu qui est Ravensburger, qui fait pour des enfants de 6 ans, qui est vendu dans les grandes surfaces, et des bons jeux, bon, enfants de 6 ans, vendus en grande surface, il n'y en a pas tant que ça, je pense que celui-là, c'est bien.
Oui,
c'est bien qu'il y ait un jeu de ce calibre-là, voilà, dans la grande surface. Maintenant, espérons qu'il aura du succès qu'il restera sur les étals.
De mon côté, je voulais vous parler de Quarriors et plus spécialement vous faire une présentation de l'extension Rise of the Demons, qui est la première extension pour Quarriors et qui est disponible actuellement. Alors, comme on l'a dit, c'est du whisky, donc c'est de l'import. Et vous pouvez quand même le trouver. Moi, j'habite pas une très grande ville, Villeurbanne, c'est quand même pas une des plus grandes villes de France.
Ah, bravo.
J'ai quand même trouvé dans une boutique en dur. Donc, Rise of the Demons, c'est 19 nouvelles cartes, une vingtaine de dés, 10 dés de corruption et 5 dés qui vont correspondre à une nouvelle créature, qui est le Demonic Overlord, enfin, le Strong Demonic Overlord, ou Lesser Demonic Overlord. Il y a 3 formes différentes pour ce personnage-là, qui a la particularité d'être très fort, puisqu'il a, pour une vocation de 4, 10 en attaque et 7 en défense. Donc c'est vraiment très très puissant, c'est la créature qui va dépasser le dragon et qui sera la plus forte de ce jeu. Donc on va avoir cette créature supplémentaire, on va également avoir un sort, qui est un sort de corruption, et qui va jouer avec les dés de corruption, puisqu'on va avoir également une dizaine de dés de corruption. C'est des dés qui vont faire très mal. D'abord, c'est un dé qui vous donne une chance sur 2 de ne pas avoir de mana. C'est-à-dire que traditionnellement, sur les dés de Quarriors, tu vas avoir au moins la moitié des faces qui vont te donner de la mana. Ici, tu as 3 faces sur 6 qui vont te donner une mana. Et puis tu vas avoir 2 faces sur 6 qui vont te donner 0 mana. Et cerise sur le gâteau, tu vas avoir une face avec 3 étoiles, et qui va te donner un autre dé de corruption. Donc tu vas tirer un dé qui va ne te servir à rien, et qui dans le pire des cas, va t'apporter un autre dé qui ne va te servir à rien.
C'est comme les malédictions. Un dominion.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont tout piqué, et c'est très bien. Donc, c'est un peu plus méchant, et c'est vraiment, ça a un autre goût que le jeu de base. Et pour accentuer ça, bah forcément, pour y ait vraiment quelque chose d'un peu plus cohérent, ils ont mis une carte de chaque type de créature, donc une carte pour les hags, une carte pour les wizards, une carte pour les dragons, qui va jouer sur les dés de corruption et qui vont, par exemple, quand tu vas détruire une créature adverse, donner un dé de corruption à ton adversaire. C'est la double peine, quoi. Je te détruis, en plus t'es corrompu. Donc c'est un peu du lose-to-lose. Tu peux prendre toutes les cartes et faire du full corruption, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que c'est un petit peu lourd. Tu peux mélanger, tu fais ce que tu veux. Mais tu arrêtes de faire du bruit ce soir, là. Voilà. Et donc voilà, donc tu peux accentuer ou pas la façon dont tu gères cette nouvelle fonctionnalité, je sais pas comment dire. Là, tu peux parler maintenant.
Ah bon.
Oui, c'est pas du bruit quand tu parles en fait.
Ah bon. Petite fonctionnalité, je pense pas que t'aies d'autres termes.
Donc c'est autre chose. C'est vraiment une extension qui a vraiment un goût particulier, qui est très cohérente, qui plombe le deck, enfin le sac adverse, et donc qui va rallonger les parties parce que forcément quand on pioche des dés de corruption, on fait pas grand chose avec. Voilà, c'est très bien. C'est juste très bien. Le seul point négatif, il y en a deux.
C'est bien.
C'est un point négatif multiple. D'abord, pour 20 dés et 20 cartes, l'extension doit coûter à peu près 17-18 euros.
Ouais, mais c'est marqué sur la boîte, c'est WizKids.
Et alors ?
Je sais pas.
Et alors, la boîte, elle est. Alors, le deuxième effet qui est cool, c'est que c'est une boîte en carton qui rentre même pas dans la boîte de base. Et donc, voilà quoi. Les dés ne rentrent pas dans le thermoformage de la boîte de base, et moi ça me perturbe.
Ouais, mais on fera la prochaine extension, il y aura un beau thermoformage.
Dans Carmageddon. Carmageddon.
Voilà, ça s'est fait exprès, comme ça tu seras obligé de craquer encore une fois.
Ouais, mais je craquerai, parce que j'ai fait un certain nombre de parties. Alors les enfants sont un peu perdus, parce que forcément, avec les cartes qui renouvellent le genre, ben, eux ils pensent savoir, donc ils font n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ils s'amusent, ils tirent les dés et ils avancent. Tu vois, c'est un détail.
C'est
en fait
pareil, non ? Tu tires les dés,
c'est pas du tout la même chose.
Ça avance.
Alors oui, peut-être. Peut-être que Quarriors ressemble au jeu de loi. C'est comme ça que je vais l'introduire. Tu connais le jeu de loi ? Ben c'est pareil. Tu lances les dés, t'avances. Donc voilà. Alors, l'extension Rise of the Demons est en boutique, dans toutes les bonnes boutiques.
C'est pas gentil pour les autres.
19 cartes, 10 dés de corruption, à peu près 18 euros pour toujours 4 joueurs et à peu près 30 à 45 minutes. Ça augmente un petit peu le temps de partie. Et puisqu'on parle de l'extension Rise of the Demons de Quarriors, on va parler un petit peu de notre sponsor. Chez Ludic Bazar, vous pouvez trouver cette extension. Ils l'ont, donc vous pouvez l'acheter. Le jeu de base est en rupture, mais ça ne va pas tarder à revenir. Et le prix public, c'est 17,50€. Par contre, c'est comme d'habitude. Si vous êtes fidèle à Ludic Bazar, ça sera forcément beaucoup moins, puisque vous aurez 10 à 15% de réduction assez facilement.
Et ça marche sur ce produit.
Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme événement à venir ? On va pas reparler de Cannes ?
Non, on va pas reparler.
Parce que vous êtes en train de le préparer, vous avez déjà réservé votre hôtel. Tu voulais nous parler de ?
Et les soirées terribles ont déménagé.
Non, c'est moi ça. C'est ma news. C'est ma news.
Oh merde.
Et donc moi, je voulais vous parler des soirées terribles. Alors, les soirées terribles, c'est une association qui est associée à un podcast. Les soirées terribles sont des gens qui vous aideront à découvrir des jeux de société, qui vous aideront à choisir des jeux de société, qui vous feront jouer à des jeux de société. Alors, ce sont des gens qui sont belges et qui officiaient, je ne sais pas où, mais qui ont déménagé et qui sont maintenant, qui ont trouvé un nouveau local, qui vont vous accueillir au Clubhouse de Royal Uccle Sport. Alors, Uccle, c'est la banlieue. Moi, j'appelle ça la banlieue de Bruxelles.
En fait, c'est francophone, au moins ?
Oui, ils parlent. Oui. Ils sont. En fait, c'est une commune qui est limitrophe à Bruxelles-Ville et elle est officiellement bilingue.
Ah, attention.
Donc voilà. Donc si vous êtes français de passage en Belgique ou belge et que vous nous écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à aller passer un bon moment aux soirées terribles. Ça se passe de 19h30 à 23h30 au Clubhouse Royal Uccle Sport. Ça a l'air super sympa. Il y a un parking, il y a des tables pour jouer, il y a de quoi manger. Non, c'est important. L'accès est facile et après t'as une énorme cheminée. Ça m'a donné envie d'y aller, mais pas en été, plutôt là
quand il fait froid.
Un petit peu froid. Mmh. Et jouer au coin du feu, ça a l'air super sympa.
Si la bière belge est au rendez-vous. Je veux bien y aller,
n'est-ce pas ? Mais ouais. je pense qu'effectivement, on plus, doit. Je sais pas si on mange bien, mais on doit bien boire. Je vous mettrai un petit.
J'espère qu'on joue bien aussi.
Oui, oui, bah ça, j'ai
quitte à être là-bas.
Aucun mal à penser que c'est le cas. Je vous mettrai une petite vidéo sur le site. Et puis, bah, j'espère que ça vous donnera envie et que vous irez voir et que vous leur ferez un coucou de notre part.
Et puis, il y a un événement que je relaie parce qu'on nous en a parlé dans les commentaires sur le site. Il s'agit de la nuit du jeu à Clermont-Ferrand. Donc, ce sera le 14 janvier, donc pas longtemps après que vous ayez écouté ce podcast. C'est une soirée, une après-midi et une soirée jeu. C'est à la MJC de Clermont-Ferrand. Donc, c'est 3 rue Gauthier de Bioza. Un programme assez vaste, hein, puisque tous les types de jeux seront représentés. Jeux du monde, jeux de plateau, jeux de rôle, échecs, go, scrap, jeux de cartes. Tout y est, il y a même des casse-têtes, il y a même un espace dédié aux enfants. Et c'est de 14h à 3h du matin. Entrée gratuite et buvette gratuite. Ah non, à votre disposition.
Open bar.
Open bar.
Si vous venez de la part de Proxy Jeux, c'est open bar.
Voilà.
Il vous
suffit de faire un clin d'œil au barman et de tendre votre verre. Et donc ça se passe à la Maison des Jeux de Clermont-Ferrand. À la Maison du Peuple, située au 3 rue Gauthier de Bioza. À Clermont-Ferrand. 103 000.
Et comme à notre habitude, on va vous parler un petit peu des écrans. À commencer par une brève. A Few Acres of Snow, le jeu de l'année 2011 pour moi, ou un des jeux de l'année 2011, est en ligne. Alors pas sur BGA. Sur yukata.de.
Pareil, c'est un site où on joue en navigateur.
Donc un concurrent à BGA. Et bah, vous pouvez. Alors, le jeu est encore en bêta, je crois. Si vous ne le connaissez pas, ou si vous ne l'avez pas, ou si vous n'avez pas personne avec qui jouer, bah, rendez-vous sur yukata.de. Vous aurez un petit raccourci sur le site Proxy Jeux. Et vous pourrez tester ou jouer à cette. Immense jeu qui est A Few Acres of Snow.
Attention quand même, c'est assez long.
Oui, c'est pas 15 minutes, c'est pas une demi-heure, c'est bien 60-90 minutes quoi.
Voilà, c'est ça. Et justement, alors moi du coup, je vais parler donc sur Board Game Arena de Cœur de Dragon qui est enfin disponible. Cœur de Dragon, c'est un jeu de Rudy Gordorn pour deux joueurs, c'est un jeu de cartes que je ne connais pas, mais en tout cas, il a un franc succès parce que depuis qu'il est en ligne, ça fait quelques jours maintenant, il y a déjà eu plus de 6500 parties jouées.
Ouh, c'est impressionnant.
Si on compare à Amitis sorti il y a déjà quelques mois et qui tenait à cœur à Grégory, eh bien il y a eu à peine 700 parties jouées sur Amitis, donc 6500, et je pense que quand vous nous écouterez, ils en seront à 8 ou 9000.
Ouais, c'est peut-être pas les mêmes jeux, non ?
Non, carrément pas. Cœur Dragon, c'est un petit jeu de cartes à deux, ouais, rapide. Ça. Bien sûr, les gens peuvent enchaîner les parties. Alors, je connais pas, je voulais essayer, et puis j'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai un petit bémol quand même là-dessus, d'ailleurs, c'est que la règle du jeu n'est pas disponible en français.
Ah, c'est
quand ils présentent le jeu, il y a 4 pages en anglais, ou bien on peut les voir une vidéo sur YouTube où le gars explique, c'est très gentil, mais c'est pareil, c'est tout en anglais. C'est pas forcément gênant pour tout le monde, mais il y en a que ça rebutera. Espérons que BGA pourra obtenir la traduction française de la règle quelque part, ou bien par l'éditeur Philosophia, ou j'en sais rien. Côté bref, au niveau des nouveaux jeux sortis, alors j'en ai pour un peu tout le monde. J'en ai sur Android avec Cairn, qui est un jeu de PitchNet. C'est, on va dire, c'est le curling préhistorique.
Sur téléphone ou sur tablette ?
Bah, tu sais, chez Android, il n'y a pas de distinction, donc pour l'instant, c'est sur les deux en même temps.
Et toi, tu joues sur ton téléphone ?
Non, je l'ai pas acheté.
Mais t'as pas une possibilité de test sur Android ?
Et non, il n'y a pas de possibilité de
c'est
test.
Naze.
Si, il faudrait que je l'achète et que je me fasse rembourser dans le quart d'heure qui suit.
C'est ça.
Ouais, je pourrais le faire, mais ça va être un peu chaud.
Aucune conscience professionnelle.
On y reviendra. J'ai quand même acheté Carcassonne pour le tester, pour en parler dans un numéro. C'est 4 euros quand même, Carcassonne.
Mais Cairn, enfin la PitchNet sur sur Android, c'est.
Ben je pense qu'on peut jouer sur une tablette déjà que sur le téléphone.
C'est ça.
Voilà. Ben c'est en fait c'est BlackRock et ForgeNext derrière, donc c'est comme pour Caméléon dont on a parlé il y a quelques temps. Donc ça sort à chaque fois sur Android. Cairn est sorti, donc c'est BlackRock qui est derrière et ils l'ont sorti à Essen. Alors on l'a essayé rapidement à Essen, bon ça reste un jeu de PitchNet. Hein.
Ouais, avec en fait la pitchnet où tu as des
pièces
supplémentaires
plus,
pour avancer, reculer tes pions.
Ouais, t'as droit à une petite baguette dehors de place ton pion, mais voilà, bon, mais c'est du curling en pigeonnette. Voilà, donc c'est juste pour info, et donc c'est sorti sur Android Market et c'est à 1,99€.
Il faut quand ça sort sur Android, il faut le
voilà.
Signaler.
Et alors du coup, j'ai un autre jeu sur Android, mais alors attention, c'est encore plus fort. Voilà, c'est, un peu... c'est sur Android, mais bon, sur Android, ça intéresse déjà pas mal de monde, mais ne vous précipitez pas, parce qu'en fait, ce n'est que pour les possesseurs du Samsung Galaxy S. Eh ouais.
Quoi ?
Ah bah alors là, j'étais comme toi, j'ai qu'est-ce que ça ?
Alors, si j'ai un Desire, ça marche pas.
Eh ben non. Eh ben moi, sur mon Nexus, ça marche pas.
Dédé, ça marchera pas.
Ben voilà.
David, désolé, c'est pas pour toi.
Ben non. Alors, si quelqu'un a un Galaxy S, ben qu'il essaye, qu'il nous dise, parce que nous, on n'a pas pu tester. C'est un petit jeu de pirates, de recherche de trésors, etc. Ça s'appelle Pirate and Island. Et alors, on a parlé d'Aztec dans le numéro précédent.
Ouais.
Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été conçu, de jeu de société, qui a été conçu uniquement, directement. Qui sort uniquement qu'en version numérique. Il n'y a pas de version papier qui arrive avant. Voilà, donc on vous mettra le lien. Si vous avez un Galaxy S, tant mieux. Sinon, pas, tant pis, vous ferez comme moi. Vous regarderez juste la petite vidéo YouTube qui explique comment fonctionne le jeu.
Ouais, mais... c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a un portage qui est prévu ?
Ouais, a priori, il y aura des portages. Ça alors, vient, je pense, des problèmes de développement.
Ouais, en fait c'est, on revient sur... alors, vous allez me jeter des œufs, mais... Quand les gens développent sur iPhone, il n'y a qu'un seul iPhone. À peu près. Alors, il y a une résolution qui est plus ou moins, voilà. T'as le Retina Display, tu l'as pas, mais t'as quand même un environnement qui est assez bordé. Je n'essaie même pas d'imaginer le développement sur Android où tu as des formats d'écran qui sont différents, des composants, des processeurs graphiques qui doivent être. Ah oui, sans
parler des surcouches des constructeurs et ensuite des opérateurs.
Parce que ça, c'est vraiment une. C'est les surcouches opérateurs, il faut les enlever parce que sinon ça marche pas. Enfin, pardon. Là, on s'égare un petit peu. Donc
voilà. Non, mais ils annoncent qu'a priori ça devrait sortir sur d'autres Android à plus tard.
Ok.
Peut-être le Galaxy S2. Le Galaxy Note.
Voilà.
Bref. On va poursuivre sur iOS avec deux jeux qui se ressemblent un peu. Il y a Fitz et Ubongo.
Fitz. Ubongo sur iPad, ouais. Je vais l'acheter.
Eh ben, avant de l'acheter, déjà, tu peux tester même ne serait-ce qu'une version light. Donc ça, c'est super appréciable. Alors, les deux jeux, bon, c'est quand même sont différents, mais dans les deux, on manipule des pièces tordues, un peu comme dans un Tetris. Alors, Fitz, c'est un peu le Tetris quand même qui revient en version plateau. Mais je connais pas le jeu exactement, mais c'est un Knizia.
Moi non plus.
Et tu dois, c'est pareil, tu as des pièces, tu dois éliminer des lignes, etc. avec tes pièces. Et Ubongo, c'est comme le Gagne ton papa chez Gigamic. On a des pièces pareil tordues, alors la plupart ça doit être des pentaminos, et qu'il va falloir disposer dans une aire de jeu un peu biscornue, il faut le faire plus vite que son adversaire. Quand on a réussi, on peut du coup gagner des joyaux, et quand on a réussi à avoir des joyaux d'un peu toutes les couleurs, on gagne du coup la manche.
Et t'es content de ça ?
Bah, j'ai testé la version light rapidement, alors la version light est limitée à 2 minutes et quelques, donc c'est très très frustrant, mais ça m'a permis de donner rapidement une idée du jeu, et je pense que je vais le prendre parce qu'on peut jouer à plusieurs, parce qu'on peut, y a un petit mode aventure en plus. C'est pas mal du tout. En plus, à 2,39€. Par contre, c'est disponible que sur iPod. 2,39€, c'est pas cher. Fitz, par contre, 2,39€, lui aussi, mais en plus, en version universelle. Mais pas de version d'essai, malheureusement. Ravensburger ne fait pas de version d'essai. Alors...
Et Ubongo, est-ce que ça tient sur l'iPhone ?
Non,
bah, tu t'en sais rien.
Non, il est que sur iPad.
Bah, tu m'as dit... Ah non, c'est Fitz qui est en version universelle.
Ouais. Attention,
et
je parle de deux jeux en même temps, c'est compliqué. Hein. Oh là là. Voilà, mais les deux jeux, ouais, on manipule des pièces biscornues, c'est marrant.
Alors, si toi aussi tu es en train de télécharger Bongo, tu vas pas comprendre que c'est pas universel. Alors fais gaffe parce que c'est pas universel.
En tout cas, c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'ai cherché un petit peu tous ces jeux qui manipulaient les pentaminos. Mmh. Et les pentaminos, pardon. J'ai rien trouvé de super concluant sur l'iPad. Il y en a plusieurs qui existaient. Et finalement, l'arrivée de Bongo comble pas mal du tout.
Tes attentes.
Ouais.
Ok.
En fait, après, je voulais parler d'Assassin's Creed Recollection.
Ah, et bien vas-y.
Un peu plus, c'est un peu plus gros que la brève, mais je reviendrai dessus.
Mais t'en parles pas, en fait.
Si, je vais vous en parler, mais je précise déjà que mon avis, c'est un avis de début, et que je reviendrai dessus dans quelques numéros.
C'est Jocelyn qui nous en a parlé ?
Bah, il est sorti en fait, je sais plus, en décembre, donc je le teste à ce moment-là, mais il y en a peut-être qui en ont parlé.
Merci à celui qui, toujours la même chose, vous êtes de plus en plus nombreux à nous mettre des petits commentaires sur notre site pour nous indiquer tel jeu sur Android, iPad, tel jeu même de société. N'hésitez pas à continuer parce que c'est vachement sympa et surtout. De quoi ?
N'hésitez pas à continuer.
Non, mais il faut pas relever à chaque fois que je dis n'hésitez pas parce que. Continuez parce que nous on a notre on regarde le monde du jeu de société par notre petite fenêtre et elle a beau être je l'espère un peu plus large que la moyenne des gens, on voit pas tout, donc il faut nous aider et c'est vachement sympa. Je te laisse continuer sur Assassin's Creed Recollection.
Voilà, donc je pense qu'il y a pas besoin de présenter la licence Assassin's Creed.
Ah bon ?
Si, il y a besoin.
Bon, sur iPad gros...
Non, pas sur iPad. Il y a eu plusieurs jeux sur iPad, mais je ne sais pas.
Pas très bon, à mon avis.
Ouais, j'ai pas suivi. C'était un jeu de plateforme, je crois. J'en sais rien. J'ai surtout joué, moi, à la saga sur Xbox. Donc, le principe, ça oppose les assassins aux Templiers, etc. Enfin, il y a toute une grosse trame derrière. Mais là, on s'en fiche. On reste dans la partie d'Assassin's Creed, dans la suite du 2, où on est dans la partie Renaissance. Le but du jeu, ça va être pareil. Donc, c'est un jeu de cartes. Un peu à la Magic ou des choses comme ça, avec des cartes à collectionner. Et il va falloir, en fait, pour gagner les combats, il va falloir gagner l'influence sur des sites. Il y a 3 sites. Il faut gagner l'influence au moins dans 2 des 3 sites. Pour gagner l'influence, on peut mettre des sites, je ne sais pas comment ils appellent les cartes, donc des lieux.
Un peu la manière de... Si t'es perdu de Knizia ?
Non.
Tu mettais tes...
Ouais, tu mets tes cartes. En fait, je vais venir après. En fait, il y a une super idée dans ce jeu, c'est le temps. En fait, quand tu poses des cartes, on est dans du jeu vidéo, donc ils peuvent se le permettre. Dans un jeu de plateau, dans un jeu de cartes normal, il faudrait mettre des sabliers sur chacune de tes cartes. Mmh. En fait, quand tu joues une carte, il y a un délai avant qu'elle soit active. Et tu la vois petit à petit qui se compose, en fait. Donc, il y a une notion de jour qui passe et il faut une demi-journée pour que ta carte soit active. Bien sûr, entre-temps, ton adversaire peut jouer une carte action qui va du coup l'enlever. Donc, c'est pas mon tour de jouer, je fais des trucs, toi t'attends, éventuellement t'as des cartes de réaction et puis ensuite c'est à toi de jouer et ainsi de suite. Non, non, on joue en même temps. Tout le
on
temps.
Pose les cartes en même,
en même temps.
Temps.
En fait, il y a un chrono qui avance. Il y a un chrono qui avance tout le temps. Donc, en fonction de à quel moment tu l'as joué, c'est une demi-journée. En fait, après, hop, ça s'active. Et donc, on peut jouer des lieux qui vont nous permettre de drainer en permanence du coup de l'influence sur le site, ou bien envoyer des agents en mission. Les agents ont bien sûr des capacités spéciales, et ça va permettre de mieux résoudre les combats, par exemple. La plus grosse idée du jeu, ouais, c'est cette notion de temps, qui fait que vraiment, il va falloir interagir avec. Faut tout le temps faire attention à ce qu'on veut faire nous, mais également à ce que fait l'adversaire. Dans Magic, quand l'adversaire joue, on se prépare, on garde des cartes, on attend. Chaque fois qu'il joue une carte,
on prépare son
si
coup,
on contre ouais. ou pas. Ouais. Ou enfin, il y a toute cette interaction-là. Là, c'est vraiment différent. Dans les premières parties, de toute façon, on a déjà tellement du mal à gérer les siennes, les temporisations de ses cartes, qu'on fait pas attention à ce que joue l'adversaire. Donc ensuite, on va apprendre un petit peu à maîtriser les effets de nos cartes pour contrer un peu mieux l'adversaire. Évidemment, les agents qu'on envoie sur des lieux, sur les sites, peuvent également s'affronter. Et dans ces cas-là, ils ont chacun une force et des points de vie qui vont petit à petit perdre au fil des affrontements. Bah, le gros plus du jeu, c'est ça. C'est vraiment cette gestion du temps qui fait que les parties sont pas très longues. En plus, ça se joue en 5 minutes, une manche, et que il faut avoir les yeux partout. Il faut bien vérifier tout. Par contre. Il a quand même fallu faire tenir un paquet de cartes sur le jeu. Donc du coup, les cartes qui ont des effets spéciaux, il faut double-cliquer dessus pour qu'elles se retournent. Parce que sinon, on voit des belles illustrations, forcément tirées du jeu vidéo. Et du coup, sinon, il faut double-cliquer dessus pour voir leurs effets. Donc il y a tellement de cartes qu'au début, on se rappelle plus qu'elles font toutes. Notamment celles qui sont jouées par l'adversaire. Ce n'est pas les cartes qu'on a, nous, dans notre deck. Donc on les connaît moins. Et c'est un petit peu... On perd du temps à faire ça. Le jeu ne s'arrête jamais. Il n'y a pas moyen de le poser. Hein. Même si on va dans un autre menu ou des choses comme ça, le temps continue à défiler derrière.
Il y a une IA qui a été développée pour ça ou...
Alors ouais, en fait, le but du jeu, c'est qu'il se joue essentiellement en ligne, en 1 contre 1, entre humains.
D'accord,
mais ouais. Il y a une petite campagne qui permet, un, d'apprendre déjà les bases.
Connaître un peu les cartes.
Voilà, en 3 scénarios, on connaît, non pas les cartes, mais comment marche le jeu. Ils nous introduisent petit à petit les différents éléments du jeu. Et puis ensuite, donc une fois la campagne n'est pas très très longue, et après, et bah, il faut aller s'affronter à des joueurs humains en ligne. Alors, le... jeu est pas cher. Il est vendu à 79 centimes. Ça permet, on va dire, de faire la découverte du jeu et de commencer la campagne.
Je sens venir le DLC.
Et oui, carrément. En fait, c'est un jeu de cartes, donc t'es obligé de racheter des cartes. Et c'est dans les... donc c'est des boosters, on va dire. C'est booster virtuel. Hein,
à 5 euros le booster de 10
cartes. Non, t'es dans les 70 centimes le booster, un truc comme ça.
De 5 cartes.
de 12 cartes. Donc, alors, ils disent que tu as 8 communes, 3 rares et une rarissime. Donc, on va dire 8 communes, 3 Sunco, hein, des signes habituels, parce que, bon, et puis une rare, quoi, qui donc doit avoir des pouvoirs plus forts.
Je n'arrive pas à croire à ce que tu es en train de me dire.
Si, si, tu achètes des boosters comme ça. Alors, je ne sais pas quelles sont les cartes rares, les cartes. Enfin, je ne sais pas comment on peut les repérer, je ne vais pas remarquer, moi. Mais en tout cas, j'ai essayé, c'est pour ça que je dis que j'ai un avis qui demandera à être complété. Pour l'instant, j'ai essayé de jouer en mode solo, d'aller au plus loin possible avec les cartes de base que le jeu me donne.
Ouais.
Et ben, très rapidement, même dans la campagne solo, j'y arrivais pas, parce qu'en face, il commençait à avoir des cartes vraiment beaucoup plus puissantes que moi, ce que j'ai, parce que j'aurais essentiellement des communes au début.
C'est ce qui est un petit peu le problème des jeux de cartes à collectionner. Quand tu joues avec des gens qui sortent l'artillerie
voilà,
lourde,
voilà.
En général, sauf dans des types bien particuliers, bon, que bah. Tu connais très bien, c'est plus compliqué.
Ouais, bah du coup, donc j'ai craqué, j'ai pris. Oh là, mon dieu!
Non.
4 euros, c'est une honte.
Quoi?
Ouais, pour 4 euros, en gros, je peux m'acheter 5, un peu plus de 5 boosters. Donc ça fait déjà quelques cartes en plus, ça devrait me permettre à mon avis d'avancer un peu plus dans la campagne solo. C'est-à-dire quand on réussit un scénario dans la campagne solo, on marque un petit peu de crédit du jeu, je sais pas, c'est un symbole bizarre, et qui vont permettre d'acheter les boosters, mais on en gagne pas suffisamment pour pouvoir vraiment acheter les boosters puissants. Parce qu'en plus ils ont trois types de boosters, évidemment, le booster pourri, et puis un booster moyen et les top boosters qui coûtent pas le même prix. Ça va du simple au 9
tout. Ouais, ouais, ouais. On parlait de moutons tout à l'heure.
Là, c'est.
Donc,
voilà. Bon, non, mais j'ai trouvé pas mal de bonnes idées. Maintenant, ce que je veux voir, c'est si. Donc, déjà, avec le truc de base, on peut juste donner un aperçu du jeu pour 79 centimes. Et si on a envie d'aller plus loin, il faudra de toute façon débourser plus. Maintenant, ce que je vais faire pour la prochaine fois, c'est jouer avec mes nouvelles, les cartes achetées, etc. Voir si, on peut finir quand même sans se ruiner la campagne solo. Comment on peut se frotter à d'autres joueurs?
Bah, sans se ruiner, t'as déjà dépensé 4 euros.
Bah ouais, mais tu peux, à mon avis, tu peux t'as vite fait dépenser 20, 30 ou 50 euros là-dedans. Surtout, justement, voir si quand on joue contre d'autres joueurs en ligne, on n'est pas obligé de. C'est pas la course à l'armement. Et puis surtout, si les cartes sont suffisamment. Amènent toutes suffisamment d'effets intéressants pour que ce soit pas juste une course de vitesse ou bien enfin, un jeu qui devienne trop rébarbatif. J'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que le jeu est riche en choix et.
Donc c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est que éventuellement même pour 5 ou 6 ou 7 euros, disons le prix d'un Carcassonne, ça pourrait valoir le coup alors.
Ouais, c'est ça. Ben de toute façon, c'est le genre de jeu qu'on pourra jouer que sur version numérique parce que cette notion du temps, elle peut
grâce
que par
au système de chrono quoi.
Voilà, ouais. Donc là-dessus, c'était une très très bonne surprise parce que ils auraient très bien pu faire un jeu assez basique qui ne verrait en rien et pas du tout. Bon, pour ceux qui connaissent aussi la série au niveau visuel et tout, hein, sachez que vous serez vraiment totalement dans l'ambiance. Moi, je reproche le générique d'ailleurs qui est un petit peu longué à chaque fois qu'on lance le jeu. Et comme il est gourmand en mémoire, dès qu'il va en tâche de fond, il a tendance souvent à être une des premières tâches dégagées par l'OS. Donc, chaque fois qu'on veut le relancer, ça prend du temps.
Mmh.
Le jeu a un autre gros inconvénient pour moi, c'est qu'il faut se connecter au système Ubisoft, au Uplay. Et les premières fois que j'avais le jeu,
t'étais offline.
Non, bah ouais, le jeu se lançait et comme il n'avait pas à connecter les serveurs Ubisoft, paf, il se crachait net, l'application se fermait direct. Parce qu'au début, quand on achetait le jeu, il faut d'abord créer un compte sur Ubisoft. Mmh. Et chaque fois qu'on va retourner dans le jeu, du coup, il va falloir se reconnecter, identifier au Uplay si on veut jouer sur la version online et des choses comme ça. Et si en plus on veut acheter après, c'est en plus du in-app store après, donc il faut encore, c'est in-app machin, donc il faut encore après retaper son mot de passe iTunes. Un petit peu fastidieux toutes ces étapes.
Non, il faudrait qu'ils puissent te piquer 12 euros cash et puis comme ça on en aura
plus.
Mais
ouais, bien sûr qu'ils aient mon numéro de carte bleue une 20 fois pour toutes et puis que j'ai un abonnement, ils m'achètent un booster.
Je pense que tu peux leur donner, hein, c'est pas.
Ouais. Non, mais c'est une question d'Apple aussi.
J'aime bien cette séquence.
Ouais.
Où on voit ton côté sombre un peu.
C'est ça. Mais il faut mettre qu'Apple ait leur 30% aussi au milieu.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Bref, voilà.
Bref,
donc
tu conseilles.
Oui.
Enfin, pour l'instant, tu conseilles. On reviendra dessus dans quelques semaines pour que tu fasses une.
Parce qu'à côté, j'ai testé Ascension, mais c'est pareil, c'est un jeu de cartes collectionné comme ça, etc. Gratuit ou je sais plus ou pareil, qui coûte pas cher, mais après, il faut racheter des cartes.
Au départ.
Ouais, enfin, 79 centimes. Mais en fait, j'ai été rapidement après. Justement, j'ai trouvé lui, il innovait pas. J'ai pas eu envie d'aller bien plus loin que les premières parties. Parce que j'ai l'impression que voilà, on pioche des cartes. C'est un peu le concept du Dominion, on a de l'argent et on a de la force de monstre, on va tuer des monstres ou on va acheter des cartes. Et puis c'est tout, enfin, c'est un peu du Thunderstone, mais j'ai pas trouvé que ça a innové grand chose. Donc du coup, je suis pas allé plus loin. Par contre, celui-là, tout de suite, ça m'a donné envie de pouvoir y jouer.
Mmh, très bien. Très très bien.
Et toi, Olivier?
Et moi, maintenant, je me suis mis à League of Legends. Donc, on peut pas tout faire. Ça me coûte 0 euros. Alors, ils ont un système aussi où tu peux acheter des conneries, mais c'est pas la peine d'acheter quoi que ce soit pour y jouer. Et
je vois qui t'a formé.
Donc, ouais, tout à fait. C'est mon maître à penser. Et donc, j'ai laissé un petit peu mon iPad de côté, mais je pense que je viens de télécharger Ubuntu, donc je vais voir ça.
C'est bien.
D'ailleurs, faites-moi un petit mail si à contact at proxyjeux si, en m'envoyant le nom de votre invocateur et puis on se connectera. Voilà, salut. Message personnel. Avant de vous quitter, on vous rappelle l'adresse de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez bien sûr toutes les infos sur les sujets qu'on a pu aborder ce soir. Merci pour vos commentaires, merci pour les notes iTunes. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien. Encore toi alors ?
C'est comme ça. Tu m'as déjà coupé.
Non, ça roule.
Ah bon ? Oh putain. pardon. Bonjour, allô ?
Oui.
Bonjour.
On a la moitié acheté.
ça va être un super montage. Allez, j'enchaîne pour. Avec Coquel. Avec.
putain. T'as pas de cavalier, ça n'a aucun sens. T'as des cartes qui appellent des aigles, t'as pas de aigles. T'as pas d'aigle, ça n'a aucun sens.
Tu as joué toi vendredi ?
Non, je ne joue pas aux jeux solo, enfin rarement.
Ouais, moi c'est bon.
J'ai vu passer la boîte, mais non, j'ai pas. Donc, on peut pas tout faire non plus. Hein.
Non, mais c'est pas ça, mais du coup, je sais pas à quoi il sert le plateau.
Ah, bravo.
Mais toi, tu sais ?
Ah là là, mais non, c'est pas ma news. Non, pour dire la vérité, en fait, c'est notre news à tous les deux, mais c'est pas grave.
Par contre, il va falloir faire break. Parce que... pas ouvert mon lien, ce con!